extrait de ce magnifique livre que je vous encourage de lire. Et donc, s'agissant de la progression fulgurante de l'islam politique, donc qui commence en 1928 avec la pensée des frères musulmans en Égypte, qui s'installe grâce à cette révolution islamique iranienne en 1979, avec l'alliance entre l'ensemble des forces politiques, y compris de gauche, et y compris avec la bienveillance des intellectuels français. Dans les années 90, donc, la contamination s'installe en Algérie. Donc vous, Lydia Guérous, vous êtes née en Algérie. Vous vivez donc vos premières années donc, de vie en Kabylie. Vous êtes en quelque sorte une Heidi Kabyle. Vous vivez donc dans cette montagne un peu bucolique, loin, disons, des tensions, des enjeux de pouvoir et des événements qui vont frapper votre pays donc, quelques années plus tard. Et en 1989, donc, vous quittez l'Algérie pour vous installer en France avec votre famille. Là, vous arrivez donc à Roubaix, où vous découvrez donc, un monde que vous commencez donc à connaître et à appréhender. Vous avez publié deux ouvrages importants. Donc, le dernier ouvrage que vous avez publié s'appelle « Je suis Marianne ». Et le premier ouvrage donc, par lequel donc, nous vous avons connu, rappelez-moi le titre. Allah est grand, la République aussi. Alors, évidemment, en 1990, bon, vous êtes encore très jeune, vous êtes en France, mais votre travail d'écriture donc, vous mène à travers donc, ce qui se passe en France, à travers la montée de l'islam politique en France. Donc, vous jetez un regard sur ce qui s'était passé en Algérie dans les années 90. Et donc, vous faites le lien, vous faites carrément le lien entre le ici et le là-bas, entre la montée de l'islamisme en Algérie et la montée de l'islamisme en France. Vous avez étudié en économie, vous avez étudié en gestion, vous avez été aussi en politique, donc vous êtes engagé pour les Républicains, vous avez été aux côtés de Nicolas Sarkozy jusqu'à dernièrement, et vous êtes donc, vous revendiquez donc la défense d'une laïcité, vous dites que la laïcité doit transcender les partis politiques. Et donc aujourd'hui, votre engagement porte essentiellement sur la défense des valeurs de la République et la défense de la République, de la liberté d'expression. Alors à vous la parole.
Merci Jamila pour cette introduction.
Faut allumer. Ok. Bon, voilà. Donc merci Jamila pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être devant vous. Effectivement, j'ai eu un engagement auprès de Nicolas Sarkozy. Je sais que ça provoque certaines réactions, mais bon, aucune crainte. La laïcité, je pense qu'elle se défend autant à droite qu'à gauche et qu'actuellement, au regard des débats qui ont lieu dans cette primaire de la Belle Alliance Populaire, on ne peut que se désoler lorsqu'on entend le boys band Montebourg, Hamon et Payon faire quelques déclarations sur la laïcité.
Éclate-toi, chère Lydia. Vas-y, éclate-toi. Vas-y, tu as un public de gauche. Vas-y. Allez.
Non, mais je suis tout aussi intransigeante avec ma famille politique et cela a pu me coûter lorsque j'étais porte-parole des Républicains. En effet, je suis née en Algérie, je suis née dans ma chère Kabylie, c'est ces montagnes de Kabylie qui ressemblent à ma
Corse. On n'est pas chauvin de ce côté-là.
J'ai un attachement et je pense que la terre qui a vu vos premiers pas et vos premiers mots, on ne peut jamais l'oublier. Néanmoins, j'ai décidé d'ancrer mes racines dans cette terre qui m'a accueillie, qui m'a nourrie, qui m'a soignée, qui m'a permis d'être une femme libre et d'écrire ce que j'écris aujourd'hui, d'être engagée en politique. Et cette terre s'appelle la France. Et cela est possible parce que la République a encore ses gardiens, ses combattantes et ses combattants. Et je crois que c'est un combat qui est d'actualité, aujourd'hui en plus encore, parce que le danger de l'islam politique est là, le danger du communautarisme islamique qui gangrène la République et qui va toujours de pair avec la montée de l'islamisme est bien présent et qu'il va falloir, pour cette échéance à venir, qui n'est pas une élection présidentielle comme les autres, être absolument intransigeant avec l'ensemble des candidats pour que la laïcité ne soit plus portée par l'extrême droite, et je suis absolument effarée quand j'entends Marine Le Pen défendre la laïcité, et les combattants de la laïcité qui sont ici présents savent qu'à chaque fois qu'on peut prononcer le mot laïcité, dénoncer la montée du communautarisme, de l'islam radical, dénoncer le CCIF, dénoncer l'UOIF dans les médias, on a immédiatement affaire à un tombereau d'insultes, on est caricaturé, on est mis à la droite de la droite. Et il faut absolument éviter de se laisser impressionner ou de céder à une espèce d'autocensure que voudraient nous imposer ces militants islamistes en col blanc, en quelque sorte, que les médias aiment tant. Alors effectivement, je suis née en 84 en Algérie et dans les années 80, les islamistes ont commencé à s'installer. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire malheureuse de l'Algérie et comment sournoisement ils sont arrivés en s'attaquant de manière bienveillante, d'abord en rendant service à travers l'associatif à l'Algérie d'en bas. Voilà. Alors c'est d'abord, on rend service, on donne des médicaments pour aider à soigner, on file un petit billet par-ci, par-là, on paye des dettes, on offre un cartable et des cahiers aux enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc tout d'un coup, les barbus deviennent cet État qui est défaillant et ces populations qui sont vulnérables se sentent redevables.
Disons aussi, rajoutons à cela, qu'il y a quand même deux sphères qui ont été contaminées par les islamistes, à savoir la sphère donc, éducative, où là, l'école, il y a une mainmise sur l'école à travers les programmes d'éducation religieuse, donc, et aussi à travers donc, la sphère familiale. Donc, disons qu'il y a trois sphères, donc la sphère sociale, la sphère familiale et la sphère éducative, à travers laquelle eh bien, les islamistes ont travaillé au corps la société et les institutions de l'État. Et j'espère que ça vous rappelle quelque chose quand même.
Et d'ailleurs, je voulais faire, donc, en parlant de la sphère associative et en Algérie, donc, ce qui a rendu... C'est une forme de clientélisme, hein, finalement, puisqu'ensuite, ils ont milité politiquement et ils ont appelé ces personnes à qui ils avaient rendu service à venir voter pour eux. Moi, ce que ça me rappelle aujourd'hui, c'est quand même des associations comme Baraka City qui, dans les quartiers, sont présentes aux côtés des familles, rendent service, sont soi-disant des ONG et finalement, derrière... se rendent à la mosquée, donnent des consignes de vote. Donc le parallèle est très clairement présent et j'ai l'impression que toutes les organisations, tout le schéma se déroule exactement de la même façon en France comme ça l'a été en Algérie.
Et, vous rappelez dans votre livre, Lydia, la pression exercée sur vous au sein même du lycée. Oui, à travers donc quelques lycéens, quelques camarades lycéens qui vous montraient en fait en quelque sorte le droit chemin et qui vous regardaient d'un mauvais œil bah, parce qu'il y avait tout chez vous qui n'allait pas du tout. Enfin, selon eux, évidemment.
Je suis une femme, j'ai pas ma langue dans la... Enfin, voilà, je parle, j'ai des idées, je les exprime, j'aime la France, j'aime la liberté, j'ai la chance d'avoir des parents... éduquée. Et donc, dans ce lycée de Roubaix, moi qui avais l'espoir d'arriver en France et d'être dans le pays des Lumières, je me retrouve avec des filles qui, subitement, passent du jean taïba string apparent au niqab. Tout d'un coup, elles se mettent à se voiler de noir. Nous étions en 2002 et en parallèle, je me souviens que pendant le ramadan, je ne fais pas le ramadan. Mes parents m'ont toujours dit qu'il faut que tu sois en forme pour étudier, c'est ce qui est le plus important, donc je ne fais pas le ramadan. Demander que la salle de permanence soit privatisée pour les élèves qui font le ramadan. Donc moi, arrivant avec ma jupe, ma féminité, mes idées, j'étais le vilain petit canard qu'il fallait remettre dans le droit chemin. Et c'était le début de cet islam absurde, cet islam des interdits, où chaque semaine, j'entendais une ineptie nouvelle. Donc, faut pas serrer la main des femmes. La musique, c'est haram, c'est la voix du diable. Le parfum, c'est interdit. Et chaque semaine, voilà, il y avait une nouvelle connerie qui émergeait et une nouvelle interdiction. Et ça se passait donc en 2002 en France, dans un lycée du nord de la France. Évidemment, la ville a évolué parce qu'arrivant dans les années 90, c'était une ville populaire où effectivement les gens n'étaient pas bien riches, il y avait un melting pot joyeux avec des populations d'origines diverses, tout le monde s'entendait, on ne mettait pas en avant sa religion. C'était vraiment dans la sphère privée et on en avait en quelque sorte rien à faire de la religion de l'autre, on avait en face de nous des individus.
Alors peut-être qu'on va y revenir dans le débat précisément tout à l'heure concernant donc cette communautarisation en fait de la France et cette fragmentation de la société française. Mais Lydia, vous m'avez tendu la perche que je saisis et qui va me permettre